Bonjour, ravi de vous retrouver dans Grand Bien Vous Fasse. La consommation est devenue au fil des décennies l'une des valeurs phares qui organisent nos sociétés occidentales, un élément fondamental de nos vies quotidiennes qui construit notre identité et continue à faire rêver nombre d'entre nous. Boulimique de consommation, incapable bien souvent de résister à nos pulsions, nous verrons que l'addiction consumériste a des conséquences à la fois sociales, économiques, environnementales et psychologiques. Est-il possible de moins consommer sans préjudice pour l'économie ? Comment remettre la consommation à sa juste place ? Quelles sont les voies de sortie de l'hyperconsommation ? Pourquoi consommons-nous trop ? Voici quelques questions posées à nos invités. Et vous, que faites-vous au quotidien pour consommer moins et mieux ? Nous attendons vos témoignages par courriel, grandbienvousfasse@radiofrance.com, sur notre page Facebook et au standard de France Inter. Elias et Colline attendent votre coup de fil au 01 45 24 7000. Et puis dans quelques instants, vous retrouverez la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
France Inter, grand bien vous fasse, Ali Rebbi.
Contrôlez votre tendance compulsive à l'achat avec Gareth Edward Barton. Êtes-vous attiré en permanence par les boutiques ?
Oui, non.
Votre cœur se met-il à battre quand vous voyez de nouveaux articles soigneusement empilés ?
Oui, non, et bon, oui.
Avez-vous répondu non aux questions précédentes et êtes-vous par conséquent dans le déni ?
Oui. Non.
Venez-vous encore de dire non ?
Non. Si, si.
Étape numéro 1, celle de la déconsommation. Jetez tout. Mettez tout dans un beau carton et jetez-le à la poubelle. Quand vous vous rendez au travail, ignorez les vitrines et le chant de leurs sirènes. Votre nouveau mantra est « En ai-je vraiment besoin ?»
Non.
Un extrait de Confession d'une accro au shopping de P.J. Hogan en 2009, adapté du célèbre roman de Sophie Kinsella. Avec nous pour évoquer quelques pistes pour moins consommer, Philippe Mouati, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur d'économie à l'Université Paris Diderot, cofondateur de l'Observatoire Société et Consommation. Vous avez publié chez Odile Jacob « La société malade de l'hyperconsommation ». Bonjour Marie Lefebvre.
Bonjour.
Bonjour Herveline Verbeken.
Bonjour.
Vous venez de publier chez Erol « J'arrête de surconsommer » avec une préface de Cyril Dion. Bonjour Cyril Dion.
Bonjour.
Avec nous ce matin au téléphone, vous avez connu un immense succès avec le documentaire « Demain » co-réalisé en 2015 avec Mélanie Laurent. Alors Marie Lefebvre, Herveline Verbeken, vous êtes trentenaire, vous jonglez entre vos vies professionnelles, familiales, amicales, associatives, et votre livre est né d'une prise de conscience quand vous êtes devenue maman, Herveline oui. Verbeken.
Effectivement, quand je suis devenue maman... Je me suis posé la question, la première question que je me suis posée, c'était la question des couches, en fait, de la montagne de couches qu'on produisait.
C'est basique, mais...
Oui, et du coup, on a commencé par l'opération, par tout simplement les couches lavables, et puis il y avait aussi l'alimentation du bébé, forcément.
Et vous, Marie Lefebvre ?
Eh bien, la même chose. En plus, mon fils est né en pleine période du bisphénol et tout ça, de cette grande polémique. Donc, du coup, dans les biberons, voilà. C'est ça qui a commencé à me faire réfléchir. Et puis, de fil en aiguille, les perturbateurs endocriniens, la manière de s'alimenter. Enfin, là, le chemin a débuté là.
Alors, avant de devenir mère, vous étiez des consommatrices classiques, voire des surconsommatrices, Herveline Verbeken ?
Effectivement, je me rappelle encore de cette époque où on faisait la balade au supermarché le dimanche. J'ai honte, mais c'est comme ça. Voilà, oui, on avait une consommation tout à fait typique.
Et vous, Marie Lefebvre ?
Eh bien, la même chose, hein, c'est-à-dire que j'avais pas l'impression pourtant de surconsommer, et quand je vois le chemin parcouru aujourd'hui, je me rends compte que ma consommation a bien changé.
Alors, quelle est l'ambition de votre ouvrage qui nous incite à moins consommer, et quels sont les grands principes qui habitent votre projet d'arrêter de surconsommer ?
Alors en fait, le but de cet ouvrage, c'est vraiment de faire prendre conscience aux gens que le standard de la consommation dans notre société, c'est une surconsommation. Et c'est aussi le fait de leur faire entendre que finalement, consommer moins parfois, même la plupart du temps, ça se traduit par un vrai surcroît de bonheur.
Marie Lefebvre.
Oui, absolument. En fait, on porte un message qui est très positif. On a tendance à croire que déconsommer, c'est très austère, c'est pas très rigolo, c'est voilà, on se prive, c'est terrible, etc. On a vraiment envie de dire que non, c'est un chemin joyeux. D'ailleurs, les personnes qui nous suivent savent bien ça. Et voilà, on a envie de porter un message positif aujourd'hui.
On se prive un peu quand même, Herveline Verbeken.
Non.
Bon, écoutez, en lisant votre livre, j'ai l'impression qu'il faut se priver un petit peu. Cyril Dion, arrêter demain d'hyperconsommer, c'est donc pas une utopie ?
Non, non, c'est pas une utopie. Enfin, c'est sûr qu'on est entraîné dans un mouvement de consommation un peu par tout ce qui nous entoure, par la publicité, par les gens, par l'offre pléthorique par ces centres commerciaux qui fleurissent comme des champignons en dehors de nos vies. Mais pour autant, je suis complètement d'accord, le fait d'arrêter, c'est aussi une façon de se soulager. On dit souvent en fait que au bout d'un moment, c'est plus nous qui possédons les choses, mais que c'est les choses qui finissent par nous posséder, et qu'on est obligé de passer un temps fou à s'en occuper, et que ça génère du stress. On est dans une espèce de spirale en fait, où il faut gagner toujours plus d'argent pour pouvoir acheter toujours plus de choses qui vont demander toujours plus d'attention, et tout ça en fait, c'est du temps qui est pris sur notre qualité de vie, des choses qu'on pourrait faire qui seraient plus intéressantes qu'acheter.
Philippe Momati, pourquoi hyperconsommer est devenu une valeur cardinale de nos sociétés? L'hyperconsommation permet par exemple de se situer et de se jauger socialement. Et les entreprises ont bien compris les ressorts sociologiques et psychologiques qui nous animent en matière de consommation.
Oui, tout d'abord, la consommation, c'est quand même l'aboutissement du circuit économique. Donc, tant qu'on est dans une économie capitaliste qui a besoin de croissance, ben, il y a besoin de croissance de la consommation. Et dès lors que les besoins de base sont déjà couverts, bien tout le marketing, toute la machinerie commerciale va plutôt viser le haut de la pyramide des besoins. Et donc là, on est plutôt sur des ressorts socio-psychologiques. Et effectivement, la consommation, enfin l'hyper-consommation, s'est inscrit dans un contexte de recul des grandes idéologies, que ce soit la religion, les idéologies politiques, la morale, enfin tout ce qui pouvait donner du sens à l'existence. Je parle de manière neutre, hein, je dis pas que je regrette ce temps, mais ça pouvait donner du sens à l'existence et situer chaque individu dans la société. Ben, comme tout ça a reculé, eh bien, ce sens et cette position dans la société, on l'a plutôt trouvé dans la consommation. Mais c'est un support bien fragile pour se construire l'identité et surtout pour structurer une société. Et je crois qu'aujourd'hui, on commence à en voir un peu les travers.
Alors, la mécanique de la société de consommation a très bien fonctionné pendant les 30 glorieuses, mais peu à peu, la machine s'est grippée. D'un côté, des consommateurs gavés et grisés et face à elle, des classes moyennes déclassées qui n'arrivent plus à profiter, comme vous l'écrivez dans votre ouvrage, des félicités de la société de consommation. Sans compter les exclus, bien sûr, les exclus de cette société de consommation.
Oui, on a un problème, j'ai envie de dire, un peu endogène. C'est-à-dire qu'effectivement, au cours des 30 Glorieuses, on était dans une croissance extrêmement rapide de l'économie et du pouvoir d'achat. Donc, on attisait le désir de consommer sur des besoins primaires, des besoins de base, et on donnait les moyens aux gens de les satisfaire. Donc, effectivement, là, on a une économie, une société qui fonctionnait de manière relativement harmonieuse. Aujourd'hui, nous sommes toujours dans l'incitation continue à consommer et avec des moyens qui se sont fortement sophistiqués. On reparlera peut-être des nouveaux outils marketing dont on dispose pour attiser le désir de consommer. Je l'ai dit, on touche plutôt ici les couches socio-psychologiques, donc ça touche plus profondément l'individu. Mais en parallèle, la croissance est au ralenti, les inégalités sont croissantes et donc on assiste à un paradoxe. Le désir de consommer n'a sans doute jamais été aussi fort. Le vouloir d'achat est en très forte progression et le pouvoir d'achat est en berne. Et encore, il est en berne en moyenne, et quand on commence à décomposer les données, on se rend compte qu'il y a toute une partie de la population qui a décroché, et probablement celle qui a les plus fortes aspirations consuméristes. Mmh. Donc on est confronté quand même à un petit problème. Comment vivre dans la sollicitation permanente du désir de consommer, avec des moyens de satisfaire qui se contractent? Et on sait bien que ça suscite de la frustration.
Herveline Verbeuken, ce sont des préoccupations écologiques qui ont animé l'écriture de ce livre et l'animation de votre blog. Vous avez toutes les deux, oui. Marie Lefebvre et Herveline Verbeuken, des blogs.
Oui, mon blog, moi, c'est Sortez de vos canapes, c'est le blog de Marie, c'est la salade à tout. Alors, je pense que Marie et moi, on est effectivement profondément écologistes, c'est notre point de départ, il est un petit peu ailleurs, parce que on s'est aperçu que finalement, les gens auxquels nous on s'adresse, parce qu'on a une communauté Facebook en fait qui compte près de 60 000 membres, 65 000 même pratiquement, et on s'adresse à toutes les catégories de population. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que le discours écologique, eh ben, c'est très culpabilisant pour la plupart des personnes, parce que ils imaginent ne pas avoir les moyens, en fait. Et puis, ils sont axés sur leur survie. Et du coup, ça passe au second plan. Et moi, je le comprends tout à fait, parce que j'ai eu aussi des problèmes financiers. J'ai dû aussi nourrir ma famille avec 200 euros par mois. Et donc, on prend le point de départ inverse, c'est-à-dire qu'on les aide à surmonter ça pour pouvoir, pour après, qu'ils aient un autre horizon, en fait.
Bonjour Thomas Chauvineau.
Bonjour Ali.
Dans quelques minutes, on retrouve votre reportage. Alors, vous avez rencontré Guillaume et Julie, partis vivre à la campagne avec leurs quatre filles dans le Limousin ?
Non, en Touraine, à côté de Blois. Et ça rejoint exactement les préoccupations dont on parle depuis le début de l'émission. C'est-à-dire que eux se sont posés la question de leur, à la fois de leur consommation, aussi de l'impact sur l'environnement. Et ils essayent de faire en sorte de, disons, consommer un maximum de ce qu'ils sont capables de produire dans leur ferme en Touraine.
On écoutera votre reportage tout à l'heure. Comment arrêter de surconsommer. Nous attendons toutes vos questions par courriel, grand bien vous fasse, à radiofrance.com et au standard de France Inter 01 45 24 7000. Allez, il est temps de retrouver la petite philo de la pub et des marques de Thibaut de Saint-Maurice.
Le soleil vient de se lever.
Faudrait être fou pour dépenser plus.
Il faut bien secouer, sinon la pub, elle reste en bas.
Bonjour Thibaut de Saint-Maurice.
Bonjour Ali.
Hypothèse radicale ce matin, et si pour consommer moins, on supprimait la pub ?
Il s'appelle le RAP, résistance à l'agression publicitaire, le BAP, brigade anti-pub, ou qui ne se revendique d'aucune étiquette. Ils partagent le même constat. La publicité est une pollution visuelle, une incitation à la surconsommation contre laquelle il convient de lutter.
Il y a trop de pubs, il y en a partout, là. De plus en plus. Elle est sur Internet, elle est sur nos télés. Mais là, dans le métro, dans la rue, on ne peut pas y couper, quoi. On ne peut pas éteindre l'écran.
Extrait donc d'un reportage de l'Altergité sur les actions de ces militants anti-pub dans le métro parisien. Voilà, parce que la présence de la publicité agace suffisamment pour qu'elle soit considérée par certains, on l'a entendu, comme une agression, comme une pollution. Et sur le fond, le mouvement anti-pub fait essentiellement deux reproches à la publicité. Un, elle nous manipule, elle nous fabrique des désirs inutiles. Et deux, c'est la conséquence, elle nous ferait consommer donc toujours plus et encore plus pour satisfaire ces désirs inutiles, au risque, et on l'a déjà un petit peu évoqué, de l'épuisement de nos ressources et du gaspillage.
Mais du coup, pourquoi les marques continuent-elles à faire de la pub ?
Parce que pour les marques, la publicité ou la communication en général, ça a une fonction économique et puis ça reste aussi le meilleur moyen d'installer une relation avec le consommateur. Et le plus important, ce n'est pas tellement le contenu du discours, mais c'est le fait qu'il nous soit adressé à nous, consommateurs. Alors c'est le sociologue Jean Baudrillard qui a pas mal étudié la société de consommation et qui nous explique ça dans son livre « Le système des objets ». Baudrillard distingue entre l'impératif publicitaire, c'est-à-dire le contenu de la pub, ce que nous dit la pub, et ce qu'il appelle l'indicatif publicitaire, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une publicité, la relation que la publicité installe. Alors c'est un peu comme quand on reçoit des cartes postales l'été, il y a le contenu, alors généralement ça dit « il fait beau », il fait chaud, on passe de super vacances, donc le contenu est assez peu intéressant. Et il y a le fait qu'il y ait une carte, et le fait que envoyer ou recevoir une carte postale, et ça justement, ça indique un lien, ça fait plaisir, ça montre qu'on a pensé à l'autre.
Alors la pub crée peut-être un lien, mais c'est un lien qui nous manipule.
Oui, alors c'est ce qu'on lui reproche, et puis vous en avez aussi parlé hier à propos de l'alimentation. Mais c'est intéressant ce reproche parce que, à mon sens, il repose sur un malentendu. Et c'est bien tout le problème philosophique que pose la publicité. C'est qu'elle nous fait nous découvrir non pas comme de pure volonté, dotée d'un libre arbitre à toute épreuve, comme Descartes par exemple a pu le penser, mais elle nous fait nous découvrir comme des êtres influençables. Et toute la sociologie et toute la psychologie sociale explorent les causes de cette fragilité, elles nous disent comment s'exerce l'influence de la publicité sur nous, et donc elle nous fait découvrir qu'il y a des normes, du conformisme, des dynamiques de groupe et de la lutte pour des positions sociales.
Mais au fond, pourquoi sommes-nous soumis à ces influences et à ces envies ?
Eh bien, c'est là où il faut continuer de dissiper le malentendu. Alors, ce n'est pas la faute de la publicité si nous désirons des choses. Je sais que ça va pas forcément faire plaisir à tout le monde. Mais le problème est d'abord en nous. Si nous sommes influencés par la publicité, au fond, c'est parce que nous sommes, comme disait le philosophe Gaston Bachelard, des créations du désir et non pas du besoin. La publicité installe une relation avec nous en assumant nos désirs, en les transformant, en les démultipliant aussi. Bref, la publicité parle directement à nos désirs et elle a peut-être mieux compris que nous la place du désir dans notre existence. Spinoza, de son côté, nous apprend que le désir est toujours premier. Il est la révélation de la nature profonde de notre être. Et si nous désirons une chose, ce n'est pas parce qu'elle est bonne, mais au contraire, nous la jugeons bonne parce que nous la désirons. Voilà, la pub ne crée donc pas le désir, elle se contente de le révéler. Il ne suffit donc pas de la supprimer pour consommer moins. En revanche, il faut prendre le temps de connaître ses désirs, de les distinguer, et pourquoi pas de les convertir pour consommer autrement. Mais cette conversion-là, elle dépend d'abord de nous.
Commentaire autour de la table, Herveline Verbeken.
Ah oui, moi je opine du chef, tout à fait. Alors dans ma
vous
première
pas arrêté
vie,
pendant toute la chronique.
Oui, tout à fait. Dans ma première vie, en fait, j'étais psychologue clinicienne et je suis lacanienne en fait à la base. Donc je ne peux que qu'être d'accord avec ce qui a été dit effectivement.
Philippe Moati.
Je suis parfaitement d'accord, et je ne suis pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Je pense que la publicité a un certain nombre de fonctions. Simplement, effectivement, et ça dépend comment elle est orientée. Elle a une fonction pédagogique. Elle peut donner des informations sur les produits, donc elle peut d'abord aider à réguler la concurrence sur les marchés et à orienter les choix des consommateurs d'une manière pertinente. Et puis on en parlera peut-être plus tard dans l'émission. Je pense qu'il y a un impératif besoin d'arriver à dématérialiser la consommation. Or, la publicité, elle a cette capacité de, avec d'autres outils marketing, de créer de la valeur immatérielle. C'est-à-dire qu'en gros, comme on désire très très fortement le produit, que le produit est attaché à une image qui dépasse sa fonctionnalité, eh ben, on est prêt à le payer plus cher. Regardez les produits d'une certaine marque à la pomme. Et donc, si on peut payer plus cher des produits parce qu'on leur confère une signification, notamment créée par la publicité, eh bien, on obtient un rapport valeur économique sur matières premières consommées qui est favorable. Donc, il y a des pistes intéressantes à travailler qui peuvent nous permettre d'imaginer que la publicité puisse être un outil pour aller vers une bonne consommation.
Merci Thibaut de Saint-Maurice, la petite philo de la pub et des marques. C'est tous les jeudis dans Grand Bien vous fasse. Une émission préparée par Alexia Rivière et Lorraine Bess avec l'aide de Clara Marliot. Et c'est réalisé par Jérôme Boulet. Questions, réactions, témoignages 01 45 24 7000.
À lire EBI sur France Inter.
On voit tout vers sa tête rentrée, resserrée dans tes épaules. Tu n'aimes rien montrer, là-bas au fond tu t'isoles. Il y a ces deux plis que l'on voit entre tes yeux. C'est même très d'ennui, beaucoup trop sérieux. Jamais su danser, t'as jamais su glisser. T'as jamais pu, jamais su danser. Jamais tu laisses aller. La tête renversée.
Jamais su danser.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Comment arrêter d'hyperconsommer? C'est notre thème ce matin avec Marie Lefebvre et Herveline Verbeken, auteur de J'arrête de surconsommer, avec Cyril Dion, le co-réalisateur du documentaire Demain en ligne, et avec le professeur d'économie Philippe Moumati, auteur de La société malade de l'hyperconsommation. Alors avant d'esquisser des pistes pour réduire son hyperconsommation, il faut peut-être se poser la question du pourquoi. Pourquoi on consomme trop? C'est pour remplir un vide, Philippe Moumati? Et quel vide? Question philosophique.
Oui, c'est une question philosophique. Je suis un pauvre économiste. Mais effectivement, je pense qu'on a besoin de trouver du sens à son existence. On a besoin de se situer et de construire son identité. Or, la consommation et tout ce qui l'entoure, la publicité, mais également toute la société du spectacle qui nous offre des modèles. En fait, des modèles auxquels on peut s'identifier et qui peuvent nous renvoyer en effet de miroir l'image qu'on a envie de construire de nous-mêmes et de faire valider par les autres. Et dans la mesure, effectivement, tous les grands systèmes de pensée dont je parlais tout à l'heure ont reculé, et bien pour beaucoup d'individus, ça passe par là, la construction de soi passe par là. Mais il faut bien reconnaître que du coup, c'est une construction de soi qui est un peu fragile, puisqu'en fait, on nous offre un catalogue extrêmement ouvert, en apparence ouvert, dont les modèles ne sont pas toujours accessibles, soumis à des effets de mode. Donc aujourd'hui, c'est ce modèle que je vais adopter, mais demain, il sera plus validé socialement, je dois en aborder un autre. Et puis, il peut arriver un moment où, surtout quand on n'arrive plus à rejoindre les modèles parce qu'on n'a plus les moyens de consommer, eh bien on se demande qui suis-je ? Qui suis-je ? Mon identité n'est pas solide, elle n'est pas validée par le regard des autres. Et donc, là, c'est une fuite en avant. Alors, ça peut déboucher sur des situations catastrophiques. Je pense en particulier aux populations les plus défavorisées, les plus jeunes, ceux qui n'ont pas eu un contexte familial qui les a soutenus. Et puis, on a bien vu, ces dernières années, les dérives que ça peut provoquer, l'attraction pour des systèmes de pensée qui, nous donnent une place bien établie, plutôt valorisante, qui nous insère dans un collectif, qui nous rassure, qui nous porte. Alors, ça peut être des contextes positifs, ça peut être des contextes très négatifs. Je pense évidemment à la séduction exercée par le djihad par une certaine population. Le retour de la religion, une religion un peu dépourvue de spiritualité, tout simplement, ça donne un cadre. Donc il faut qu'on soit très attentif, parce qu'il y a un revers de la médaille. Alors évidemment, les maux dont souffrent nos sociétés ne relèvent pas uniquement de l'hyperconsommation, mais c'est l'un des ingrédients, nous sommes devenus trop matérialistes.
Cyril Dion, pourquoi est-ce qu'on hyperconsomme, selon vous ?
Je pense qu'il y a plein de raisons, mais effectivement, on est dans une société qui malheureusement nous a situés comme consommateurs. C'est-à-dire, c'est une des fonctions, et d'ailleurs on parle souvent des consommateurs, et je pense que c'est un des drames de notre monde, c'est de nous avoir réduits à ça. Donc pour exister dans cette société, il faut consommer, il faut gagner de l'argent. Bon. Après, je pense qu'il y a une raison qui est plus intérieure, qui est de compenser un certain nombre de frustrations. On voit bien que la consommation est une façon de se défouler quand on va pas bien, quand on a besoin de se faire plaisir. Et c'est une stratégie qui malheureusement nous est proposée, qui est à mon avis tragique, parce qu'elle a toutes les conséquences qu'on connaît, de détruire les ressources naturelles, de raser les forêts, et puis de vider de sens un certain nombre de nos relations. Puisqu'en fait, on se met à avoir des relations exclusivement marchandes, là où on avait des relations de dons et des relations d'échange qui étaient plus profondes. Donc pour moi, il y a une vraie vision de qui on est dans cette société et qui on est dans le monde qui a besoin de se transformer pour guérir un peu de cette maladie-là.
Herveline Verbeken, je m'adresse également à la psychologue clinicienne de formation à tendance lacanienne.
Oui, c'était avant.
Il en reste quand même quelque chose.
Oui.
Donc sur le pourquoi est-ce qu'on hyperconsomme au fond ?
Je rejoins en fait tout ce qui a été dit. Effectivement, après il y a eu aussi, moi j'aime bien aussi rappeler que finalement il y a eu la question de l'émancipation de la femme aussi qui est arrivée là il y a quelques décennies où finalement la société a pas totalement suivi la société masculine. Je suis désolée, mais au niveau du partage des tâches etc. Et du coup il y a eu aussi ça qui est arrivé pour permettre aux femmes de pouvoir travailler et assurer leur quotidien en consommant des produits tout prêts, emballés, etc., etc.
Bonjour Chloé.
Bonjour.
Bienvenue dans l'émission. Alors, vous êtes mère de deux enfants et depuis décembre dernier, vous avez décidé de ne plus aller au supermarché.
Oui, oui, tout à fait. Donc, je précise que je travaille à temps complet, mon mari travaille à temps complet, nos enfants ont 4 et 8 ans et nous voulions réduire nos déchets. Et on s'apercevait qu'on n'arrivait pas du tout à les réduire en gardant le mode de vie qu'on avait. Donc on a décidé de ne plus du tout aller au supermarché pour ne plus acheter de choses suremballées. Mmh. Et c'est beaucoup plus facile qu'on ne le croyait en réalité. Quand on fait nos comptes, ça ne nous coûte pas plus cher. Je pense que c'est parce qu'on achète moins de produits entre guillemets inutiles. On n'achète plus de crème dessert, de fromage déjà râpé, de bâtonnets de poisson, de plats préparés. On mange mieux parce qu'on cuisine tout. Et on fait des achats de meilleure qualité. On achète moins. D'ailleurs, on voit bien dans notre frigo. Notre frigo est moins rempli qu'avant. Mm-hmm. Mais par exemple, on fait partie d'une AMAP maintenant. On va au marché. On va chez les petits commerçants. D'ailleurs, on trouve aussi chez les petits commerçants une variété de produits pour certains produits qu'on ne peut pas trouver dans un supermarché. Et on ne fait plus de gaspillage alimentaire parce que on s'est aperçu que ce qu'on jetait avant, c'était surtout les plats cuisinés qu'on avait entamés, pas terminés. Alors que maintenant, comme on cuisine tout, eh ben on cuisine la quantité qu'il nous faut, et puis ça nous ferait trop de peine de gâcher ce qu'on a cuisiné nous-mêmes. Et je tiens à préciser que mes enfants le vivent très bien. Alors, ils sont pas tellement soumis à la publicité parce qu'on ne regarde pas la télévision, mais du coup, ils sont ravis. Ils disent à tout le monde très fièrement qu'on va plus au supermarché. Et mon aîné met un point d'honneur à ne pas manger de biscuits déjà emballés. Donc, ça se passe très bien.
Alors, vous racontez votre expérience sur votre blog. Ça s'appelle « Ma vie sans supermarché » @blogspot.com. Marie Lefebvre.
Oui, merci Chloé. Merci de nous montrer que c'est possible. Sur notre groupe Facebook « Gestion budgétaire, entraide et minimalisme », on a beaucoup de personnes qui nous disent « Oui, mais moi, j'ai pas le temps d'aller au supermarché. C'est la facilité. Moi, j'ai pas le temps de faire mes courses à 15 endroits différents, réduire mes déchets. Ça va me demander trop de temps, trop d'énergie. » Bah, Chloé nous montre que c'est tout à fait possible et que même voilà, en étant maman, en travaillant à temps plein, on peut y arriver quand même. Donc merci beaucoup.
Herveline Verbeken.
Oui, bah même constat en fait. Je pense que la clé réside quand même dans la simplification. C'est-à-dire que notre mode de consommation nous amène à avoir une multiplicité d'objets pour finalement la même fonction ou des fonctions très proches. Et quand on décide de faire plus soi-même, par exemple, on est amené à se poser la question de vraiment simplifier, mutualiser les produits, etc. Mais vraiment accepter de simplifier, c'est la clé.
Merci beaucoup Chloé de nous avoir appelé. Bienvenue Isabelle.
Oui, bonjour.
D'où appelez-vous, Isabelle?
De Ferney-Voltaire, alors, à la frontière genevoise.
Très bien. Est-ce que vous arrivez à moins consommer?
Oui, nettement. Nettement.
Comment vraiment, vous y prenez?
Vous savez, moi j'ai 62 ans, donc je suis à cheval un petit peu sur une période extraordinaire où on trouvait tout magnifique, on achetait à tour de bras des choses dans des supermarchés incroyables. Et puis on entasse, on met au fond des placards, et quand on déménage, on se rend compte que, oh mon Dieu, c'est vrai, j'ai ça, j'ai ci, puis à quoi ça sert, etc. Et puis au fur et à mesure des années, avec une prise de conscience maintenant écologique, etc., dont on parle beaucoup, bon, je veux dire, ça, on ne peut pas échapper à cette information, je me suis rendu compte que je consommais beaucoup trop de choses totalement inutiles. Pas tellement dans le domaine alimentaire, parce que moi, je fais beaucoup de cuisine, et donc, j'ai toujours... je n'ai jamais acheté de plats préparés, etc. Mais dans d'autres domaines,
par exemple, quel domaine
j'accumulais beaucoup, c'était même un petit peu compulsif, et puis j'ai appris à beaucoup donner, à vendre aussi en dépôt vente, etc., dans des vides-greniers. Et maintenant, je réfléchis à deux fois, pas seulement pour une question financière, bien que ça soit très important, mais aussi une question de place. On n'a plus la place maintenant dans nos appartements, dans nos maisons, d'entasser tout ça. Et puis, ça prend de la place. Et puis, il faut s'en occuper. Il faut ranger, il faut nettoyer. Tout ça, finalement, ça prend beaucoup trop de temps. Et ce n'est pas satisfaisant. Donc, après, j'ai perdu mon travail. Et puis, évidemment, moins de revenus financiers. Et j'ai appris aussi là à rationaliser à partir de ce moment-là. Des détails tout bêtes, des outils de cuisine, des produits ménagers, je dirais, avec du bicarbonate de soude et du vinaigre blanc. On fait des choses extraordinaires. Donc, quand je regarde maintenant dans les rayons des supermarchés le choix qu'il y a, je me dis, c'est insensé, quoi.
C'est
la folie, on va où avec tout ça?
Oui, enfin, l'un des ressorts de l'hyperconsommation, c'est de jouer sur la frustration et la déception. Donc, en fait, on est frustré de pas avoir, on achète, on a un petit plaisir éphémère, et nous sommes dans une société hédoniste, nous sommes vraiment à la recherche de ce plaisir, puisqu'en quelque sorte, on a perdu le sens, mais le plaisir dure pas très longtemps, en fait. Et donc, si on veut retrouver ce plaisir de la consommation, faut passer encore à autre chose. Et donc, c'est une sorte de course sans fin, qui est un peu stérile en réalité. Et donc quand le hasard de la vie ou la conjoncture fait que plus dur de boucler les fins de mois, on a perdu son emploi, le pouvoir d'achat est en berne, etc., et qu'il faut compter, ben on se met à se demander, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine, quoi. Et là, on rejoint d'une manière intime un constat fait par les psychologues et les économistes, c'est que passé un certain seuil, consommer toujours plus ne rend pas nécessairement significativement plus heureux. Et donc c'est ça qui se passe à l'époque où nous traversons. Ça fait 10 ans que le pouvoir d'achat est sous tension. Il y a une vraie prise de conscience des enjeux écologiques attachés à la consommation. Et donc, on assiste à un élan de réflexivité, exactement le témoignage qu'on vient d'avoir. Mais à quoi ça sert? Est-ce que ça m'apporte vraiment la promesse que ça porte? Et souvent, la réponse est, ben, c'est pas sûr.
Cyril Dion, votre regard sur ces deux auditrices qui ont décidé de beaucoup moins consommer, voire de tourner le dos au supermarché?
Ben, moi, je trouve ça super. Je trouve que c'est le début de la liberté. Sur ce qu'on vient d'entendre, effectivement, en fait, non seulement ça rend pas plus heureux, mais voire même ça rend presque plus malheureux, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Il y a cette anecdote, moi, que j'adore dans le bouquin de Thoreau, là, Walden, cet écrivain américain qui est parti vivre dans les bois, dans une cabane au bord d'un lac, et qui, un jour, ramasse des galets dans la rivière, et puis les trouve super beaux, il les met sur son bureau, et puis au bout de quelques jours, il se rend compte qu'il va être obligé de faire la poussière chaque jour sur ses galets. Donc finalement, il les remet dans la rivière parce qu'il se rend compte que là encore, ça va lui prendre du temps et que ce temps-là, il pourrait le consacrer à se promener, à rêver, à lire. Donc pour moi, c'est vraiment une libération. Cette histoire du supermarché, c'est génial parce que au-delà simplement de consommer moins et de faire des économies ou d'avoir une satisfaction personnelle, ça recrée quelque chose d'autre. Le fait d'aller dans des commerces locaux, le fait d'aller au marché, le fait de cuisiner, ça nous remet en contact avec une réalité qu'on perd quand on va dans ces espèces d'énormes hangars. C'est Pierre Rabhi qui dit ça, qu'on est devenu des espèces de chasseurs-cueilleurs modernes en prenant les trucs sur les rayons du supermarché. On sait même pas d'où ça vient, on parle à personne. Et finalement, on perd le sens aussi, on perd la capacité de se situer dans ce monde par rapport à tous ces objets. Alors que si on reva, c'est pas très français, si on retourne à l'essentiel...
On vous excuse.
On parlait français quand même. Si on retourne à l'essentiel en connaissant les personnes, par exemple les producteurs à qui on achète ce qu'on mange, en les fabriquant nous-mêmes, en faisant avec nos enfants la cuisine, en leur transmettant aussi des savoirs, c'est aussi toute une façon de retrouver du sens dans sa vie qui revient.
Merci Isabelle de nous avoir rappelé. Alors je vais me faire rapidement l'avocat du diable, mais quand on se promène dans un très beau temple de la consommation, on peut éprouver un immense plaisir semblable à celui qu'éprouvaient les clients du Bonheur des Dames chez Zola, Philippe Moati.
Oui, moi je ne suis pas partisan d'un discours culpabilisant sur la consommation. Je pense que la consommation, ça génère aussi des plaisirs, ça fait partie de la vie. Nous avons la chance de vivre dans des sociétés d'opulence grâce à tout ce système qui produit aussi l'hyperconsommation, eh bien on vit dans le confort, on n'a pas froid, on se soigne. Enfin, faut comprendre que c'est un élément de tout un système dont on a largement profité, alors qui génère des externalités négatives, pour parler comme un économiste, notamment sur le plan environnemental, il va falloir s'en occuper sérieusement. Et financier, mais enfin c'est... Oui, financier. N'oublions pas que c'est quand même un élément de la boucle du système. Si on arrêtait tous de consommer, on vivrait une grave crise économique. Donc moi, je ne suis pas pour jeter le bébé avec l'eau du bain. Peut-être simplement faut-il distinguer une bonne et une mauvaise consommation. Peut-être qu'on pourra en discuter dans la suite de l'émission.
Hervé Verbeken.
Oui, en fait, je voulais rebondir ce que vous disiez, parce que nous, on est au contact de personnes qui sont, en découvert, qui ont vraiment des graves soucis financiers dus en partie à ce mode de consommation. Après, je vous rejoins. C'est pas une question de surconsommation. On peut consommer autrement, et c'est ce qu'on les amène à faire. Mais l'individu, lui, il souffre.
À suivre le reportage de Thomas Chauvineau, grand bien vous fasse, à radiofrance.com, 01 45 24 7000 pour témoigner et réagir.
So peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you crush your heart and hope to die. Till it's over and then. big riot. You blow a fuse, sing boom, the demo cuts loose, sing boom, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so quiet.
Björk, souvenir, souvenir de 1995.
Ali Rebéi, grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Comment arrêter d'hyper consommer? C'est notre thème ce matin avec Marie Lefebvre, Herveline Verbeuken, Cyril Dion et Philippe Moati, mais aussi Thomas Chevineau. Thomas, vous avez rencontré Guillaume et Julie, partis vivre à la campagne avec leurs 4 filles.
Elle est professeure des écoles, lui il travaille dans la com et en effet ils sont partis avec leurs 4 filles du côté de Blois. Donc il y a 3 ans, changement de vie, avec l'idée entre autres de pouvoir consommer disons un maximum de ce qu'ils ont été, de ce qu'ils sont capable de produire. Donc dans le jardin, bah il y a un potager qui était un peu trop grand au début parce qu'on n'y arrive pas forcément tout de suite, un verger, des poules, et avec ça on fait des conserves, pas avec les poules mais avec ce qu'on trouve dans le potager ou dans le verger. Et quand j'arrive, il y a un confiturier sur la gazinière.
Là c'est une deuxième cuisson donc de confiture pomme kiwi. Je l'ai commencé hier, donc on a fait une première cuisson que j'ai arrêtée. Il n'y a pas grand chose. Je vais faire, excuse-moi, une dizaine de pots maximum.
Si on regarde dans le frigo, il y a quoi qui viendrait de...
On va avoir des pickles de radis. Alors on peut ouvrir celui-là. Alors on en a plusieurs. Mais j'ai mon étage confiture.
Alors confiture. On se met devant le frigo.
Alors confiture de fraises du jardin, confiture poire figue du jardin, confiture de pêche qui ne sont pas que du jardin, mais il y en a. Voilà, après, donc il peut y avoir du sirop maison. Donc, en ce moment, il y a du sirop d'ananas que j'ai fait avec les l'épluchure de l'ananas, en fait.
Comment ça ?
On a cuisiné un ananas, il me restait toutes les épluchures. Donc, en fait, je les ai simplement mis de l'eau, du sucre, j'ai fait réduire. Et en fait, après, on presse et ça fait un sirop. Voilà, je prépare aussi, là, en ce moment, je suis dans les apéros maison. Donc, j'ai fait du vin de pissenlit, du vin de sauge, j'ai fait du vin de feuilles de trésier, enfin tout ce qu'on va faire.
À consommer avec modération hein, pour le CSA, il faut le dire.
Oui, oui, à consommer avec modération. Les sirops, les enfants adorent, enfin maintenant, les enfants, ils boivent plus que ça. Hein. Mais ils en veulent, enfin de toute façon, ils ne veulent plus de sirop industriel. Ça n'a rien à voir. Je crois que j'ai ma confiture qui...
Ah, faut aller voir
qui la mijote, compte. Ouais. Je l'entends et là, il faut que j'écume. Pour nous, c'était important aussi que les filles connaissent ça. Voilà, et ça marche parce qu'aujourd'hui, elles sont à fond. Enfin, en quelques années, ça y est, elles savent couper les ailes des poules. Oui, parce que sinon, elles s'envolent, les poules. plus des plumes, après ça repousse.
Joséphine ?
Oui ?
Tu veux bien me montrer comment on coupe l'aile de la poule ?
Bah, l'aile, ouais. Comme ça. Et on, par exemple, là, c'est l'os. Et on coupe les plumes.
Et pourquoi tu coupes les plumes ?
Bah, pour couper les ailes.
Et pourquoi tu coupes les ailes de la poule ?
Bah, pour pas qu'elle vole et qu'elle parte. Voilà.
Comment elle s'appelle, celle-là ?
Amy.
Amy ? Salut, Amy. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le potager ?
Là, c'est le début de saison, donc on a des oignons, on a des salades, tout le début des radis qui arrivent. On a mis des échalotes, qu'est-ce qu'on a mis encore ? Des patates. Non, là, on s'est mis vraiment dans les pieds dans la terre, et on s'est bien vautré pendant 2 ans. On a vu beaucoup trop grand, on a fait n'importe quoi, perdu la moitié de ce qu'on plantait.
Il y a un peu de vent, là. Hein.
Ouais.
C'est pas grave, ça, pour les légumes.
Le vent ? Non, pour les légumes, ça va. Au contraire. En fait, il y a une foule vraiment de produits qu'on consomme tous les jours, dont on sait qu'ils sont faits dans des conditions discutables, qu'ils sont trop chers, qu'ils sont pas terribles, qu'on peut très bien faire nous-mêmes. On est nombreux à vouloir et à pouvoir apprendre et à reproduire chez soi des tours de main d'un boulanger, d'un charcutier, d'un maître chocolatier, d'un brasseur. Et c'est pas incompatible avec une vie professionnelle, familiale.
Et donc vous proposez ici des formations pour apprendre à faire tout ça ?
C'est ça. Ici, on a en fait fédéré autour de nous tout un réseau d'artisans qui ont envie de transmettre. Mais pas dans une logique de recette fixe, c'est plutôt de comprendre la base, les gestes, les tours de main, pour pouvoir se les approprier et improviser ensuite. Nous, on est plein de contradictions par ailleurs. Aujourd'hui, si tu ouvres mon frigo, tu verras bien qu'il y a, il y a du speck fumé maison, il y a de la bière maison, mais il y a aussi des pâtes industrielles parce qu'on n'a pas eu le temps de les faire et parce qu'on a 4 enfants et 2 métiers. C'est pas parce qu'on fait nous-mêmes qu'on a vocation à se couper du monde.
Mais est-ce que vous avez la sensation quand même que vous consommez mieux ?
Oui, on consomme mieux. On consomme mieux, on consomme moins. Ici, on a la capacité, c'est vrai, parce qu'on est un peu à la campagne, de produire davantage. Il faut de l'espace, on a pu acheter un fumoir, on a pu faire plein de choses comme ça, mais on consomme beaucoup mieux, ouais. On consomme mieux, on se rend compte qu'on dépense moins. C'était pas le point de départ. Mais par certains aspects, on se rend compte que c'est également un aspect une démarche économique.
Reportage signé Thomas Chauvineau. Oui,
parce qu'il y a aussi un mouton pour tondre, deux moutons même pour tondre le verger. Et donc Julie et Guillaume ouvrent leur cuisine pour ces échanges dont ils viennent de parler, pour apprendre à faire des saucisses, du pain, de la bière. Ça s'appelle La Grange au Savoir et toutes les infos sont sur Internet.
Merci Thomas Chauvineau. Cyril Dion, votre regard sur ces adeptes de la sobriété joyeuse, heureuse, sur ces décroissants.
Je veux pas dire que c'est pas bien.
Vous buvez du petit lait, là. Hein.
Je vais avoir des problèmes. Non. Mais évidemment, je trouve ça super. Non, mais je trouve ça super pour plein de raisons. Comme je disais tout à l'heure, pour des raisons de sens. Mais aussi parce qu'on en a vraiment besoin. Je suis d'accord qu'il faut pas culpabiliser les gens. Je suis d'accord que on a tous, de temps en temps, envie d'acheter quelque chose qui nous fait plaisir et c'est chouette et on a du confort et cette société nous a apporté plein de choses. Mais si on regarde quand même objectivement, là nous on a fait le tour d'une dizaine de pays pour faire ce film avec Mélanie Laurent.
Demain, exactement,
on a rencontré des scientifiques qui nous disent qu'aujourd'hui, si on ne fait rien, si on retourne pas la situation, dans une vingtaine d'années, on va se retrouver dans un drame vraiment effroyable. On vit la 6e extinction de masse des espèces, on rase les forêts, on a les océans qui sont remplis de déchets, il y a quasiment un nouveau continent de plastique dans les océans. Ils ont même été jusqu'à nous dire que si on ne fait rien, d'ici à la fin du siècle, c'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître. Donc on a vraiment une responsabilité énorme à faire en sorte d'arrêter de détruire les ressources naturelles, d'arrêter de détruire les endroits où les espèces vivantes habitent, pour fabriquer des parkings, des supermarchés, etc. Et de trouver le moyen de vivre sur cette planète qui soit le plus simple et le plus sain. Donc moi, ce que j'adore dans ces témoignages-là, c'est que c'est pas effectivement des gens qui se fouettent avec des orties et qui se disent « voilà, on va vivre comme ça parce que c'est terrible ». C'est des gens qui le font parce qu'ils y trouvent du sens, parce que ça les rend plus heureux, parce que ils se sentent en accord avec leurs valeurs en le faisant. Pas simplement parce que il y a une espèce d'injonction extérieure qui les y oblige.
Merci beaucoup Cyril Dion d'avoir participé à cette émission. Marie Lefebvre, Herveline Verbeken, sur la vie de Guillaume et Julie en Touraine.
Bah moi je trouve ça très
c'est
chouette.
La même que la vôtre.
Pas tout à fait. Non. Enfin mon mari est en train de monter un centre en permaculture, donc effectivement ça se rejoint sur pas mal de points. Mais moi ce que j'aime bien justement, et c'est ce qu'on fait à la maison, c'est qu'on est vraiment dans la transmission. Nous on a un jardin et on a des amis qui sont en appartement, et donc on ouvre notre jardin. pour que nos amis puissent venir jardiner. Enfin voilà, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à repenser dans les relations sociales.
Marie
et
Lefebvre.
Je voudrais rajouter que cet exemple est très intéressant et ça, voilà, ça peut faire rêver aussi ce petit côté la petite maison dans la prairie, mais que voilà, on n'est pas obligé de vivre non plus complètement de cette façon-là pour entamer une décroissance et que voilà, une personne citadine peut tout à fait se mettre à son niveau aussi à déconsommer.
Alors il faut juste trouver un point de départ. En fait.
Alors on peut par exemple adopter la méthode bisou, Marie Lefebvre.
La fameuse méthode bisou.
Bisou que vous préconisez pour adopter un mode de consommation plus citoyen, plus serein. Alors bisou, B comme besoin.
B comme besoin, à quel besoin cet achat répond-il chez moi? C'est tout ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les terrains philosophiques et psychologiques. Un besoin de se conformer, un besoin de se rassurer, voilà, un achat doudou. Le I, c'est le I de immédiateté, puisque c'est la meilleure copine de l'achat compulsif. On en a besoin tout de suite, il nous le faut maintenant. Donc si on sent qu'il nous le faut tout de suite maintenant, il faut qu'on ait un petit warning qui s'allume. Il y a quelque chose qui se passe. Le S, c'est le S de semblable. Est-ce que je n'ai pas un objet semblable qui pourrait faire l'affaire? Est-ce que quelqu'un peut pas me le prêter aussi? C'est aussi la manière de recréer du lien. Est-ce que quelqu'un peut pas m'apprendre à faire ça, par exemple?
O comme origine.
Le O comme origine. D'où vient cet objet? Qui l'a fabriqué? Dans quelles conditions sociales? D'où il vient? De l'autre bout de la planète? De l'artisan du coin? Voilà la question de son origine. Et le U, enfin, le U de utilité. Est-ce que j'en ai besoin? À quoi ça va me servir concrètement dans mon quotidien, quel sera l'apport positif.
Philippe Moati, quelles sont pour vous les principales voies qui peuvent conduire à moins d'hyperconsommation? La décroissance, la sobriété heureuse, ce sont des voies pour vous?
Pour un économiste, la décroissance, c'est difficile à entendre, si vous voulez, mais je me soigne. Hein, mais non, je pense qu'il y a deux aspects. Je pense qu'on peut réorienter la production de la consommation pour la dématérialiser. Et on commence à voir les pistes de réflexion, hein, très clairement. L'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, on vend la fonction, le prestataire reste propriétaire des moyens de fournir la prestation, donc il est très incité du coup à économiser les moyens matériels, hein. Vendre des services plus que des biens, globalement, et donc notamment vendre de l'expérience, parce que finalement on se rend bien compte que le paradigme de l'avoir accumulé des objets, on atteint les limites, on a eu beaucoup de témoignages aujourd'hui. Par contre, vivre des choses, ça, on est toujours en appétit de vivre des choses. Et donc, déplacer le curseur du côté de la production, hein, de l'avoir à l'être, c'est peut-être vendre plus de services et donc dématérialiser la consommation. Et à côté de ça, il faut déconditionner les consommateurs. Et je crois qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien exploré. On a travaillé dessus très récemment, on vient de publier une étude sur le faire, F-A-I-R-E. Quand les gens s'engagent dans des activités où ils produisent quelque chose, ça peut être de la cuisine, du bricolage, du sport, une œuvre d'art, de la musique, peu importe, nous avons passé en revue 24 activités. Quand on s'engage là-dedans et qu'on s'y engage vraiment, quand ça devient quasiment une passion, eh bien finalement on prend cette distance par rapport à la consommation. On consomme en réalité, hein. On a évalué le marché du fer à 95 milliards. Donc il y a un enjeu économique derrière. Mais ça, c'est positif, parce que ça nous détourne de l'hyperconsommation, et surtout ça, on l'a mesuré, ça rend plus heureux. Alors que consommer plus ne nous rend pas plus heureux, s'engager dans ce faire, ça crée du business et ça rend plus heureux. Et ça nous détourne de l'hyperconsommation.
Et vous ne croyez pas au bonheur des personnages des choses de Pérec, de Sylvie et Jérôme, qui poursuivaient le bonheur à travers le bonheur consumériste?
Mais rappelons-nous de l'époque à laquelle Pérec écrivait, je crois qu'on a dépassé
dans les années
ça.
60, exactement. Bonjour Marie, vous appelez de Viry-Châtillon. Châtillon.
Oui,
bienvenue.
Bonjour.
Alors, est-ce que vous arrivez à moins surconsommer?
Ah oui, moi j'ai absolument aucun problème là-dessus. Je ne complexe pas si je me dis que j'en ai envie et pas forcément besoin. Et je ne complexe pas non plus si je me dis que j'en ai besoin mais que j'en ai pas les moyens. Donc je suis absolument très très à l'aise avec la déconsommation parce que ça fait très 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 longtemps que j'ai compris le truc. Et puis quand j'achète quelque chose ou quand j'ai envie de quelque chose, je me pose toujours la question, est-ce que tu en as envie ou est-ce que tu en as besoin? Parce que voilà, acheter des placards parce qu'on a trop de choses à loger, puis ensuite acheter une maison plus grande parce qu'on a trop de meubles,
c'est déplacer le problème.
Voilà, alors je suis absolument d'accord avec tous vos intervenants, hein. Vraiment c'est parfois un long parcours, hein, d'une vie, puisque j'ai 55 ans, donc voilà. Mais peut-être que le terreau est un peu fertile à la base. Alors moi j'ai une astuce, parce que quand même il y a des choses sur lesquelles j'aurais tendance à être un petit peu aussi comme ça dans l'immédiateté encore. Par exemple, si j'ai envie d'acheter des petits végétaux, des choses comme ça sur Internet, en ligne, c'est facile de cliquer et de remplir son panier. Alors moi, ce que je fais, c'est que voilà, j'ai envie de certaines choses. Je ne désactive pas les publicités parce que ça me donne aussi l'occasion d'avoir des choix de choses que je ne connais pas, etc. Donc j'ai les petites publicités qui s'affichent sur ma page internet. Et je me dis, ah tiens, ça c'est sympa, etc. Alors voilà, ce que je fais, c'est que je clique, je remplis mon panier, mais je ne finalise pas ma commande.
Bien
vu.
Voilà,
je réouvre le lendemain ou le surlendemain, puis je ne finalise toujours pas. Et finalement, j'écume petit à petit, et je m'aperçois qu'à la fin, je n'ai plus que 2 articles au lieu de 10. Voilà.
Très bonne astuce, Marie. Merci de nous avoir appelé de Viry-Châtillon. Chantal nous dit par courriel, je n'ai jamais été une surconsommatrice, mais maintenant je suis à fond pour le no-conso. Je fais par exemple des serpillères avec de vieilles serviettes de toilette. Et avec deux t-shirts défraîchis, je fais une chemise de nuit. Marie Lefebvre. Hein.
Ben oui, très bien, c'est parfait.
Alors vous posez une question plus fondamentale dans votre ouvrage, en fin d'ouvrage. Et si le bonheur existait en dehors de la consommation, Herveline Verbeken?
Oui,
on a
alors...
un peu esquissé la réponse avec Philippe Moati.
Moi, c'est une question qui me parle particulièrement parce que mon mari a fait un burn-out il y a 4 ans. Et du coup, vraiment, on l'a senti dans notre trip, cette question-là. Et effectivement, parce qu'il y a eu une baisse de revenus, etc. Il a fallu qu'on se réorganise, on était en plein pré-IMO. Et les bénéfices, les vrais bénéfices de déconsommer, on les a vus là, en termes de bonheur.
Marie Lefebvre.
Tout à l'heure, j'étais dans le TGV pour venir ici. Je suis allée boire un café à la voiture bar parce que c'était dur. Hein. Je me suis levée au milieu de la nuit quand même.
Vous arrivez d'où ?
J'arrive de Nantes. Et du coup, je discutais avec la dame qui travaillait là, de fil en aiguille, voilà, je lui explique pourquoi j'étais là et tout ça. Et à la fin de notre conversation, elle me dit « Mais dites-leur bien que surconsommer, ça sert à rien, parce qu'en fait, ils n'emporteront pas ça dans leur tombe. » Voilà, je lui ai promis que je le dirais, je l'ai dit.
Belle conclusion. Merci beaucoup, Herveline.
Est-ce que je peux ajouter?
Bien sûr, allez-y.
Oui, alors en fait, on a recueilli 500 témoignages de personnes qui ont changé leur consommation et qui le racontent sur un site qui s'appelle Je vote au quotidien. Et je pense que c'est très important parce que ça donne énormément d'espoir.
Merci beaucoup Marie Lefebvre et Herveline Verbeken. J'arrête de surconsommer, c'est publié chez Erol. Merci Philippe Moati, La société malade de l'hyperconsommation, c'est publié chez Odile Jacob. Demain, on se demande comment ralentir pour se sentir un peu mieux, en s'appuyant notamment sur l'exemple de la Chine. À la technique ce matin, Pierre-Yves de Rolin et Ludovic Asselot. La programmation musicale était signée Muriel Pérez.
Aujourd'hui, 20% de la population mondiale, les pays riches, consomment 80% des ressources naturelles de la planète. Le résultat de cette gloutonnerie, c'est la mort de la nature. Alors le 26 novembre, à l'occasion de la journée sans achat, faites un geste pour la Terre. Arrêtez d'acheter.